Bonjour à toutes, bonjour à tous, dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le psalmiste déjà disait « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Et quelqu'un a dit dans sa prière ce matin « Un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs ». Et nous ne sommes plus dans les parvis de Dieu, nous sommes déjà dans la maison de Dieu. Et nous entrerons un jour dans la vraie, dans la grande, dans l'éternelle maison de Dieu, où Jésus nous a préparé une place, comme on l'a vu jeudi à l'Ascension. Mais en attendant, nous avons encore quelque chose à faire sur cette terre. C'est pour ça que je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre du prophète Agée. Dans le livre du prophète Agée, c'est presque à la fin des 12 petits prophètes. Ça va, la sono comme ça? Merci. J'ai plus l'habitude. Dans le livre du prophète Agée, au chapitre 1, quelques versets, et au chapitre 2, encore quelques versets. Dans le livre du prophète Agée, chapitre 1, les versets 1 à 11. La deuxième année du règne de Darius, le premier jour du sixième mois, la parole de l'Éternel fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agée au gouverneur de Juda, Zorobabel, fils de Sheltiel, et au grand prêtre Josué, fils Jotsadak. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Ce peuple prétend, il n'est pas encore venu le moment de reconstruire la maison de l'Éternel. Et pourtant, la parole de l'Éternel leur était adressée par l'intermédiaire du prophète Agée. Est-ce le moment pour vous d'habiter vos maisons lambrissées quand ce temple est détruit? Voici ce que dit maintenant l'Éternel, le maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes habillé et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui travaille tombe dans un sac percé. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Montez sur la montagne, apportez du bois et construisez le temple. J'en aurai de la joie et je serai honoré, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Déclare l'Éternel, le maître de l'univers. À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour votre maison. Voilà pourquoi le ciel a retenu la rosée et la terre s'est produite. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le vin nouveau, sur l'huile, sur les produits du sol, sur les hommes et sur les bêtes, sur tout le travail de vos mains. Et dans le chapitre 2, les versets 10 à 19, toujours dans le prophète Agée, au chapitre 2, les versets 10 à 19. Le 24e jour du 9e mois, la deuxième année du règne de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète Agée. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Propose au prêtre cette question sur la loi. Si quelqu'un porte dans le pan de son habit de la viande consacrée et qu'il touche avec son habit du pain, des plats, du vin, de l'huile ou un aliment quelconque, ces choses seront-elles saintes? Les prêtres répondirent non. Agée dit, si une personne rendue impure par le contact d'un cadavre touche toutes ces choses, seront-elles impures? Les prêtres répondirent, elles seront impures. Alors Agée reprit la parole. C'est ainsi que ce peuple, que cette nation devant moi, déclare l'Éternel, c'est ainsi que sont toutes les œuvres de leurs mains. Ce qu'ils m'offrent est impur. Maintenant, réfléchissez donc attentivement à ce qui va se produire dès aujourd'hui. Avant qu'on ne pose pierre sur pierre au temple de l'Éternel, quand on venait à un tas de 20 mesures, il n'y en avait que 10. Quand on venait à la cuve pour puiser 50 mesures, il n'y en avait que 20. Je vous ai frappé par la rouille, par la nielle et par la grêle. J'ai frappé tout le travail de vos mains. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, déclare l'Éternel. Réfléchissez attentivement à ce qui va se produire dès aujourd'hui. Dès le 24e jour du 9e mois, dès le jour de la fondation du temple de l'Éternel, réfléchissez-y attentivement. Y avait-il encore de la semence dans les greniers? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien rapporté. Mais, dès aujourd'hui, je répandrai ma bénédiction. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Le titre de notre prédication de ce matin, « Bâtir la maison de Dieu ». J'aimerais partager quelques pensées sur le thème suivant, « Les leçons de l'histoire ». Les leçons de l'histoire. Dans son épître aux Corinthiens, Paul affirme que l'histoire d'Israël a été écrite pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Puissions-nous ce matin, par la grâce de Dieu, recevoir l'enseignement prophétique d'Agé et tirer les conséquences de l'expérience d'Israël et ainsi opposer un démenti catégorique au dicton populaire qui prétend que, vous le savez, l'histoire nous apprend que l'histoire ne nous apprend rien. Mais nous allons opposer un démenti formel à ce dicton. Et ceci nous conduit à notre premier point que j'intitule « Un réveil dans l'histoire de Judas ». À son retour de l'exil, Judas se leva comme un seul homme et rebâtit l'autel de Dieu à Jérusalem afin d'y offrir de nouveau, après 70 ans d'interruption, rendez-vous compte, après 70 ans d'interruption, offrir de nouveau des sacrifices d'action de grâce en l'honneur de l'Éternel. L'année suivante, plein d'ardeur et de joie, ils posèrent les fondements du temple, tout en célébrant une grande fête en l'honneur de leur Dieu. Puis enfin, le temple lui-même et le mur d'enceinte de la ville auraient dû être reconstruits. Oui, ils auraient dû l'être si la flamme du réveil ne s'était pas éteinte et si le zèle pour la maison de l'Éternel ne s'était pas refroidi. Mais hélas, à l'élan initial, à l'enthousiasme du début, succéda la routine, la lassitude et le découragement. C'est humain, n'est-ce pas? Alors, une longue période de déclin spirituel s'installa et se prolongea pendant plus de 15 ans. Oh, bien entendu, tout le peuple, y compris les responsables, invoquèrent des circonstances atténuantes. Ils formulèrent une excuse qu'ils érigèrent en mot d'ordre prophétique venant de l'Éternel, soi-disant, et qui rapidement s'imposa avec force comme la devise populaire par excellence. C'est évident, puisque tout le monde y trouvait son compte. Et cette excuse, la voici. Le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Ce temps-là n'est pas revenu. Eux, pour justifier et pour clarifier devant l'Éternel leurs prétendues circonstances atténuantes, ils proposèrent les arguments suivants. Premier argument, l'argument politique. Nos ennemis cherchent par tous les moyens à nous intimider. C'est pourquoi nous pensons que le contexte politique est hostile et peu propice au développement de notre vie religieuse. Pourtant, par la bouche de Cyrus, roi de Perse, Dieu leur avait donné l'ordre de rebâtir le temple. Il suffit de revenir sur les livres d'Esdras et d'Ésaïe pour s'en convaincre. Deuxième argument qu'ils invoquèrent, l'argument économique. La situation économique est désastreuse. C'est pourquoi nous devons tenter de survivre et de nous occuper de nos intérêts, de nos maisons. La maison de Dieu attendra bien quelque temps. D'ailleurs, en quoi l'Éternel aurait-il besoin de nous? N'est-il pas assez grand pour se débrouiller? Tout seul? Et l'Éternel de répliquer, et je paraphrase. C'est vrai, Judas. L'Éternel n'a pas besoin de toi. Cependant, sache, au cas où tu l'aurais oublié, toi, tu ne peux pas te passer de moi. C'est pourquoi, Judas, comprends ceci. Si ta situation économique est déplorable, c'est parce que la maison de l'Éternel est dévastée, tandis que vous habitez des maisons lambrissées. C'est pas interdit d'habiter des maisons lambrissées. Mais ce qui est important, c'est de mettre les priorités à la bonne place. Écoute, Judas, vous dites, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Et moi, je réplique, c'est l'Éternel qui parle. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand ma maison est détruite? Oh, mon peuple, ne comprends-tu donc pas? Si les cieux vous ont refusé la rosée, si la terre a refusé ses produits, c'est à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Considérez donc vos voies. Si vous êtes indifférent à mon égard, je le serai aussi à votre égard. Ne pense pas, Judas, que je cherche à me venger. Loin de là, je t'aime trop, beaucoup trop pour cela. Mais je cherche à attirer ton attention afin que tu te repentes et que tu reprennes la construction de ma maison. Oui, Judas, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié. Alors, et alors seulement, je répandrai ma bénédiction. Judas, repris dans sa conscience, se remit à l'ouvrage. Mais son cœur n'était pas tout entier à l'Éternel, du moins pas encore. C'est pourquoi l'Éternel, par l'intermédiaire du prophète, lui propose cette question. Je reprends cette partie du texte d'Agé. « Ainsi par l'Éternel des armées. » Propose au sacrificateur cette question sur la loi. Si quelqu'un porte dans le pan de son vêtement de la chair consacrée et qu'il touche avec son vêtement du pain, des mets, du vin, de l'huile ou un aliment quelconque, ces choses seront-elles sanctifiées? Les sacrificateurs répondirent non, non, non. Et Agé dit, si quelqu'un souillé par le contact d'un cadavre touche toutes ces choses, seront-elles souillées? Les sacrificateurs répondirent, elles seront souillées. Autrement dit, ce qui est saint peut-il sanctifier ce qui n'est pas? Non. Ce qui est souillé peut-il contaminer ce qui ne l'est pas? Oui. Que voulait dire l'Éternel à son peuple? Il voulait dire ceci. Un fruit saint ne peut pas assainir ce qui l'entoure, tandis qu'un fruit gâté peut contaminer tous les autres. N'est-ce pas, Georges? Une seule pomme pourrie dans un cajot et toutes les pommes seront pourries si vous laissez la pourriture s'installer. Ou encore, une personne en bonne santé ne peut pas transmettre sa santé à une autre personne, tandis qu'une personne atteinte d'une maladie contagieuse peut transmettre sa maladie aux personnes en bonne santé. Et le mauvais exemple est contagieux. Autrement dit, Judas, ce culte que vous m'offrez, bien que vous le rendiez au nom de l'Éternel, ce culte ne peut en aucun cas sanctifier votre vie souillée par le péché. C'est pas possible. Et m'amener à vous bénir. Au contraire, votre vie non purifiée, votre corps non consacré, souille toutes vos actions, si bonnes soient-elles humainement parlant, et entraîne par conséquent non la bénédiction, mais la malédiction. En serait-il autrement aujourd'hui? Dieu aurait-il changé son fusil d'épaule? Judas, que m'apportent tes cantiques solennels, tes cris de joie, si tu m'honores des lèvres, alors que ton cœur est loin de moi? En serait-il autrement aujourd'hui? Dieu aurait-il changé? Ah, Judas, mon peuple bien-aimé, le comprendras-tu enfin? Que m'apportent tous les sacrifices que tu m'offres tous les jours? C'est toi que je désire, c'est ta vie, c'est ton cœur que je veux, car ils m'appartiennent, tu es à moi. Oui, Judas, reviens, reviens à moi, et je te bénirai. Et quelle est la réponse? Et Judas est revenu. Alléluia, gloire à Dieu. Et Judas est revenu, et dès ce jour, dès ce 24e jour, Dieu répandit sa bénédiction. Dites, en serait-il autrement aujourd'hui? Dieu aurait-il changé? En effet, dès l'instant où le peuple est revenu à l'Éternel, dès que le sanctuaire de Dieu fut reconstruit, le service divin rétabli, Dieu, selon sa promesse et selon qui est écrit dans la loi de Moïse, bénit son peuple. Et vous trouvez cela dans Deutéronome 28, où il y avait deux montagnes, hein, le mont Ebal et le mont Garizim. Sur une montagne, c'est la bénédiction, sur l'autre montagne, c'est la... Là où est la présence de l'Éternel, c'est la bénédiction. Là où l'Éternel est absent, c'est là. Exactement. Mais comment le peuple de Dieu et ses responsables ont-ils pu tomber dans le piège que leur tendait l'ennemi, et comment ont-ils pu croire si longtemps à la légitimité de leurs arguments? Pendant plus de 15 ans. Parce qu'ils ont écouté la voix de l'ennemi qui disait « C'est le temps de crise. Par conséquent, ce n'est pas le temps d'entreprise. » C'est le temps de crise. Par conséquent, ce n'est pas le temps d'entreprise. C'est le temps de crise. Ce n'est pas le temps d'entreprise. Voilà la parole de l'ennemi. Pourtant, la crise matérielle était le signe de la crise spirituelle, et cette situation économique particulièrement difficile aurait dû les rendre attentifs au sujet de leur condition spirituelle. Mais comment auraient-ils pu discerner les signes des temps, puisqu'ils négligeaient même la lecture de la parole de Dieu? Et par manque de connaissance, dit le prophète, le peuple de Dieu périt. C'est le piège du diable, mes chers amis, piège perfide et subtil. Il consiste en ce qu'il nous invite à fermer nos oreilles à la voix de Dieu, afin que nos yeux ne discernent plus la volonté de Dieu. C'est ici l'aveuglement et l'endurcissement spirituel. Et c'est le cercle infernal et mortel, car plus nous fermons les oreilles à la voix de Dieu, puis nous devenons aveugles quant à la volonté de Dieu. Romains 12 le dit, « Offrez vos corps en sacrifice. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Offrez vos corps en sacrifice, ce qui sera un culte intelligent. Laissez-vous renouveler dans l'intelligence de votre entendement, afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, est parfait. » Où c'est que l'apôtre Paul a trouvé ça? Ben ici, dans Agé. Et si Dieu n'était pas intervenu en faveur de son peuple par l'intermédiaire du prophète Agé, Judas se serait inévitablement égaré loin de Dieu. C'est ça que le diable recherche. Nous reprendre à lui afin de nous prendre avec lui là où il ira un jour. Il disait, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de Dieu. Et c'est ainsi qu'une fausse prophétie arrêta le peuple de Dieu dans son ardeur et dans sa ferveur pour Dieu. Et je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, il y a mille et une fausses prophéties qui arrêtent le peuple de Dieu dans sa course vers le ciel. Hélas, c'est triste à dire, mais c'est la réalité. Heureuses les églises, heureuses les enseignants qui annoncent encore la vraie prophétie. Et ceci nous conduit à notre deuxième point, les leçons de l'histoire. Si la fausse prophétie disait « le temps n'est pas venu », ce n'est pas le temps de reconstruire, car c'est la crise. Que dit l'Éternel? Que dit la vraie, l'authentique parole prophétique, celle que Judas aurait dû écouter et à laquelle il aurait dû obéir? La bonne prophétie, la vraie prophétie, la voici. Le temps est venu. C'est le moment propice. C'est le jour favorable. C'est l'heure de rebâtir la maison de Dieu. Car aussi longtemps que l'on peut dire aujourd'hui, c'est le temps de Dieu. Et le temps de Dieu, le temps pour Dieu, est toujours prioritaire. Car la maison de Dieu, l'œuvre de Dieu, le service pour Dieu, prime sur toute autre chose et ne dépend d'aucune circonstance humaine de quelque ordre que ce soit. Ni politique. Même si le contexte politique est hostile à tout ce qui n'est pas religion officielle, accrédité par l'État, l'ordre de Dieu, l'ordre divin clairement formulé, ne souffre aucune discussion. Même si nous devons l'exécuter au prix de notre liberté ou de notre vie. D'ailleurs, combien de milliers de chrétiens le font aujourd'hui au prix de leur vie? Ni économique, même si la conjoncture économique est défavorable, même si nous estimons que c'est le temps de crise et non le temps d'entreprise, l'ordre de Dieu, l'ordre divin clairement formulé, ne souffre aucune discussion. Car Dieu donne toujours ce qu'il ordonne. Ni prophétique, même si la confusion prophétique semble contredire la révélation biblique, et même si des foules entières se mettent à suivre des faux prophètes, comme c'est le cas aujourd'hui, l'ordre de Dieu, l'ordre divin clairement formulé, ne souffre aucune discussion. Même si pour l'exécuter, nous devons nager à contre-courant. Car rappelons-nous, frères et sœurs, ce ne sont que les poissons vivants qui peuvent nager contre le courant, tandis que ceux qui sont morts sont emportés par le courant. La question est, comment nages-tu? Dans quel sens nages-tu? Ni logique ou purement humain, même si notre propre raisonnement, notre propre logique nous pousserait à renoncer ou à accepter des compromis ou à faire des concessions à cause des difficultés, à cause de l'opprobre de Christ qui pèse sur nous, l'ordre de Dieu, l'ordre divin auquel nous sommes soumis, ne souffre aucune discussion. Même si pour l'exécuter, nous serions mal vus, mal jugés, mal aimés, jusqu'à être persécutés. Et ne pensez pas que moi je sois autrement que vous. Moi aussi j'ai la trouille de ce qui peut arriver. Mais un frère m'a encouragé et me dit, ne t'en fais pas, le Seigneur te donnera à l'heure même la force que tu ne ressens pas aujourd'hui. J'écris des choses sur Internet, Puis des fois, j'ai peur. Je me dis, oh, écris pas ça sur l'islam ou comme ça ou comme ça. Parce qu'ils savent tout de suite qui c'est qui a écrit. Et puis ils trouvent tout de suite mon adresse, puis ils savent bien où j'habite. L'ordre de Dieu, l'ordre divin, clairement formulé, ne souffre aucune discussion. Et je le dis d'abord, en premier lieu, pour moi, chers amis. Et je sais que ce n'est pas évident du tout. Mais prenons courage. Est-ce que notre histoire ne ressemble-t-elle pas étrangement à la leur? Est-ce que la situation du peuple de Dieu d'autrefois n'est-elle pas d'une brûlante actualité? Ô peuple de Dieu d'aujourd'hui, peuple bien-aimé du Seigneur, peuple éprouvé dans ce monde corrompu, qui que nous soyons, où que nous soyons, ne sommes-nous pas, à l'instar de Judas, ne sommes-nous pas parfois tentés d'écouter notre propre cœur au lieu de prêter attention à la parole de Dieu et de bien considérer nos voix? Pensons-nous peut-être que l'ennemi n'est plus actif? Il est justement actif vers vous, vers les chrétiens qui sont vivants. Les autres, ils les laissent tranquilles. Ils sont déjà sur le mauvais chemin. Ils les laissent. Alors que faire? Sachant tout d'abord que ni la maison dans laquelle nous nous réunissons, ni la table du Seigneur de laquelle nous nous approchons, ni le culte que nous rendons à Dieu ne peuvent sanctifier, purifier nos cœurs si ceux-ci sont souillés par le péché, ni consacrer nos vies au Seigneur si celles-ci sont livrées au péché, au monde et à nous-mêmes. Je peux venir à l'église mille et une fois, chanter, prier, prendre la Sainte Cène et même prêcher. Si mon cœur est plein de péché, cela ne me sert à rien, ou presque. Ce n'est pas ce que je vais faire qui va me purifier. Seul le sang de Christ peut me purifier de tout péché. Alors que faire? Comme Judas autrefois, revenons à Dieu. Revenons au Seigneur, et il reviendra à nous. Aimons-le, servons-le de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée. C'est le... Pardon? Exact, c'est juste. C'est le premier commandement. Et ton prochain comme toi-même, le commandement qui lui est semblable. Donnons à Dieu la première place dans nos vies, dans nos familles et dans l'Église. Offrons nos vies au Seigneur comme un sacrifice qui lui est agréable, et cela, quelles que soient les circonstances extérieures et les luttes intérieures. Parce qu'il y en a. Ceux qui sont morts, ils n'ont pas de lutte. Il n'y a que ceux qui sont vivants. Parce que ça coûte de nager à contre-courant. Ça coûte parfois cher. Ne disons pas comme Judas autrefois, le temps n'est pas venu. Ou peut-être, nous n'avons pas le temps. Car c'est la crise, et la crise n'est pas le temps d'entreprise. Le diable nous dit, demain. Demain, tu auras tout le temps. Mais demain, laisse aller. À chaque jour suffit sa peine. Demain, tu auras le temps. Demain, tu auras tout le temps. Demain sera bien assez tôt. Mais demain sera peut-être trop tard. Car c'est aujourd'hui le temps de Dieu. C'est maintenant qu'il nous parle. C'est en cet instant qu'il nous appelle à être ouvriers avec lui. Rendez-vous compte, ouvriers avec Dieu. Si aujourd'hui nous entendons sa voix, n'endurcissons pas notre cœur. C'est pourquoi, frères et sœurs, comme Judas autrefois, tous ensemble, comme un seul homme, nous nous lèverons et nous bâtirons la maison de Dieu. Le Seigneur en aura de la joie et nous serons dans la joie. Et il sera glorifié. Oui, frères et sœurs, comme Judas autrefois, encouragé par notre Dieu, motivé par sa parole, nous nous consacrerons tout à nouveau au service de l'Évangile et de l'Église de Jésus-Christ. Et Dieu, notre Père, selon sa promesse, nous bénira de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Ah, frères et sœurs, comme Jacob autrefois, nous dirons au Seigneur, nous ne te laisserons aller que tu nous aies béni. Jacob le trompeur est devenu à cause de sa foi Jacob le vainqueur. C'est pourquoi Israël veut dire vainqueur. Puisse notre Dieu exaucer notre prière. Je résume encore quelques leçons sur le réveil. Vous permettez? C'est maximum 5 minutes. Vous êtes d'accord? 3 caractéristiques essentielles au réveil. Première caractéristique, la relation avec Dieu est restaurée. Sans la relation avec Dieu, vous êtes d'accord, ça ne peut pas aller, puisque c'est lui qui nous donne tout ce qu'on a besoin. Et cette relation avec Dieu, qui est restaurée, est symbolisée par la reconstruction de l'autel, ici dans le peuple de Juda. La reconstruction de l'autel signifie que les péchés sont pardonnés et que la communion avec Dieu est rétablie. Ne pensons pas que Dieu puisse nous accorder un réveil si des péchés non confessés et non abandonnés subsistent, car alors notre communion avec Dieu est entachée et notre joie en l'Éternel est éteinte, étouffée. Et une telle attitude empêche Dieu d'agir, car elle attriste le Saint-Esprit et provoque un interdit dans l'Église. Il suffit de penser au péché d'Acan. Tout un peuple a été puni parce que ce gaillard a péché. Mais quand même, non, nous sommes solidaires les uns des autres. Deuxième caractéristique, le service pour Dieu est rétabli, symbolisé par la reconstruction du temple à cette époque dans le pays de Juda. La reconstruction du temple signifie que le travail a repris et que l'engagement au service de Dieu se poursuit. Ne pensons pas que Dieu puisse agir pleinement comme il le voudrait si nous négligeons d'une manière ou d'une autre la responsabilité que nous avons acceptée de la part, que nous avons reçue et acceptée de la part du Seigneur. Car ne l'oublions pas, Dieu vient au secours de notre faiblesse, mais il ne vient pas au secours de notre paresse. Et ce manque évident de zèle entrave aussi l'action de Dieu. Ça me vient à l'idée, ce culte, je ne l'ai pas préparé pour ici et pour aujourd'hui. J'avais pas assez de force pour préparer un nouveau message, mais c'est un message que j'ai déjà donné et que le Seigneur a mis sur mon cœur. Troisième et dernier argument ou caractéristique, la paix avec Dieu est retrouvée, symbolisée par la reconstruction de la muraille. La reconstruction du mur d'enceinte de la ville signifie que la paix avec Dieu est revenue et que le service peut s'accomplir désormais en toute tranquillité, librement et sereinement, sans discussion, sans dispute, sans tension dans l'Église. Car plus rien ne vient faire obstacle à nos prières. Et Dieu, dans ces conditions favorables, veut et peut bénir le travail de nos mains. C'est Moïse qui l'a dit en premier. Éternel, bénis le travail de nos mains, ou l'œuvre de nos mains. Que le Seigneur nous accorde dans sa grâce et dans sa miséricorde infinie de reconnaître le temps de Dieu, de fixer les priorités, de les mettre à la bonne place et de nous consacrer entièrement à l'édification de l'Église qui est son corps, afin qu'il en éprouve de la joie et qu'il soit glorifié. Car cette joie et cette gloire, finalement, rejailliront sur nous. Et nous le partagerons avec lui, avec Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur et Seigneur, et nous régnerons pour toujours avec lui. Qu'est-ce que c'est ces quelques petites années sur la terre, si nous devons souffrir un tout petit peu? N'est-il pas écrit que si nous ne souffrons pas, nous n'avons pas part à la récompense. Souffrir avec le Seigneur, c'est à cela que nous avons été appelés, dit l'apôtre Pierre et même l'apôtre Paul aux Philippiens. Car si nous souffrons avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Mais en attendant d'arriver au ciel, nous réaliserons, nous expérimenterons jour après jour, si nous souffrons avec lui, si nous mourrons avec lui au péché pour vivre pour Dieu, nous réaliserons et nous expérimenterons la puissance de sa résurrection. Car sans croix, point de couronne. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.